Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Bonjour, aujourd'hui j'ai avec moi Emmanuel Chastelière, l'auteur de nombreux romans de fantasy et de science-fiction, mais tu es aussi un traducteur et l'un des créateurs d'Elbakin, donc c'est une association qui promeut la culture SFFF, mais tu pourras donc en dire un peu plus après. Alors si tu veux d'abord, je te laisse te présenter et nous dire un peu plus sur ce que tu es.
Oui, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai commencé par la traduction, je suis traducteur littéraire depuis plus de 15 ans maintenant. Donc essentiellement, effectivement, en fantasy, en littérature jeunesse, j'ai pas fait que ça, mais ça reste quand même mes domaines de prédilection qui sont en lien de toute façon avec mon parcours de lecteur et puis d'auteur également. Donc avant d'être traducteur, j'avais effectivement lancé le site elbakin.net. Je suis un des trois cofondateurs, qui est un site avant tout dédié quand même largement à la fantaisie. Ce que je dis toujours, on aimerait bien développer un vrai côté, enfin on aimerait bien, parfois on aimerait bien développer une vraie dimension SF, mais on a déjà du mal à suivre avec tout ce qui sort en fantaisie. Je pense que tous les lecteurs et lectrices seront d'accord avec moi là-dessus.
Ouais, c'est clair.
S'il fallait en plus couvrir toute l'actualité de la SF. Donc voilà, et puis c'est vrai que depuis quelques années maintenant, après avoir été lecteur, traducteur, écrire, ça, c'est quelque chose qui me travaillait quand même depuis un certain temps, hein. Ça m'avait accompagné dans mes jeunes années. Puis j'ai mis un peu ça de côté avec mes études et puis avec la traduction, parce que la traduction, c'est un métier à plein temps. Puis quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé de me mettre un petit coup de pied aux fesses et de me relancer. C'est vrai que depuis, j'en suis à, je crois, 8 ou 9 romans ou recueils, enfin ouvrages en tout cas, donc c'est plutôt beaucoup déjà.
C'est clair. Justement, comment est-ce que tu as débuté ta carrière d'auteur, je veux dire ton premier livre plutôt, j'ai en tête.
Alors, en fait, juste pour donner un peu de contexte, au départ, j'avais des conseils de la part de certains amis éditeurs avec qui j'ai travaillé par la suite. Je pense à Simon Pinel, des éditions Argile, qui travaillait chez Critique à l'époque. Lui, forcément, il m'a conseillé, et notamment, l'une de ses recommandations, c'était peut-être de commencer par des nouvelles. Donc c'est vrai que tout premier projet publié, ça a été une nouvelle dans une anthologie de Rivière Blanche, Route de légende, Légende de la route, hein, qui était dirigée par Jérôme Accouche et Estelle Faye. Donc j'ai eu la chance d'être au sommaire, et ensuite c'est vrai que j'ai enchaîné avec un projet un peu différent, donc mon tout premier roman, Le Village, qui est publié aux éditions de l'Instant, donc petite maison d'édition belge à l'époque. Donc là on est en 2016, la nouvelle dont je parlais précédemment c'était 2015, et du coup... En fait, ce roman, c'est du pur fantastique. Et voilà, ça faisait partie d'une des... J'avais développé plusieurs idées, et puis je me suis orienté sur celle-ci, parce que c'était une histoire complète en un seul tome, voilà, et puis j'avais envie d'écrire quelque chose très porté par l'ambiance. C'est vrai que ça a été une aventure au long cours, et puis malheureusement, maintenant, d'ailleurs, les éditions de l'Instant ont disparu, donc le livre est indisponible, ce qui est bien dommage. Après, je trouve une solution pour le remettre à disposition, parce que, bon, c'est un premier roman, hein, je suis sûr que... On peut y trouver tous les défauts du monde, mais c'est malgré tout une histoire à laquelle je tiens beaucoup. Et c'est vrai que il avait été notamment nommé au prix Imaginal en 2017. J'ai pas gagné, mais
Mais nommé.
voilà, d'être nommé pour un premier roman, c'est déjà pas si mal.
Et est-ce que justement c'est ce premier livre qui t'a fait connaître, qui a fait décoller ta carrière? Parce que c'est pas forcément le cas. Hein. Souvent les auteurs, c'est après deux, trois livres que ça décolle vraiment. Donc est-ce que toi tu dois ta carrière à celui-ci?
Oh, moi, j'ai surtout si je suis dans les moments où ça va pas très bien, où je suis en train de terminer un livre et où j'ai l'impression que rien ne va, j'aurais tendance à dire que ma carrière n'a toujours pas décollé.
Ah ouais, quand même.
Il y a décollé et décollé. Il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on entend par décoller, mais on va dire qu'effectivement, j'ai eu la chance quand même qu'il soit un petit peu, mais vraiment un petit peu, hein, un petit peu remarqué. C'est-à-dire que c'était un éditeur, l'édition de l'Instant, c'était la maison d'édition de Patrick Dechaîne, qui est traducteur aussi, qui d'ailleurs a traduit par exemple Un étranger en eau Londres, et même encore l'année dernière un autre titre pour Argile, le nom m'échappe bien sûr. Mais voilà, c'était une petite maison qui était donc très mal distribuée en France parce que l'éditeur était installé en Belgique et que visiblement c'est assez compliqué. Donc il y avait quand même des handicaps. Après c'est vrai j'ai eu la chance qu'il soit quand même un petit peu remarqué, notamment justement à travers cette nomination au prix Imaginal. Il y avait eu aussi une chronique, ma foi, très bonne dans la revue Bifrost. Voilà, donc les chroniques étaient, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il y avait bien quelques avis pas forcément très emballés,
Ouais,
c'est
toujours, hein.
ça. Mais globalement, il avait été plutôt bien accueilli. Et c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, avec le recul, ce côté indisponible, en fait, a nimbé un peu le livre d'une sorte d'aura de mystère pour ceux qui l'ont pas lu mais qui m'ont découvert après, dans le sens où tomber dessus, ça devient très compliqué. Je me demande si certains le lisaient maintenant, ils seraient pas peut-être justement un peu déçus après avoir imaginé voilà que ce côté introuvable, ça fait un peu le côté Graal, mais
Tu t'es créé une
Bah, c'est
légende.
ça, c'est ça. Donc, c'est à savoir, à voir si ça vaudrait le coup de le rendre de nouveau disponible, parce que du coup, il perdrait forcément cette dimension-là. Mais oui, après, je dirais, en tout cas pour un premier roman, j'ai vraiment pas eu à me plaindre de l'accueil critique. Maintenant, voilà, le microcosme, quand justement, comme j'ai pu le faire et d'autres, on est vraiment dans le premier cercle, on va dire, des amateurs de SF et de fantasy, bah notamment en m'occupant d'un site comme Elbakin, ou justement en étant vraiment très au fait de l'actualité, on se rend pas compte que parfois, justement, on va dire que pour un cercle plus large, sans parler évidemment du grand public, parce que finalement, le grand public, peu d'autrices ou d'auteurs le touchent
Ouais.
en imaginaire. Mais c'est vrai que parfois, voilà, on a tendance à s'imaginer qu'un livre a quand même eu un certain impact, alors qu'en vérité, pas tellement. Et là, c'est vrai que forcément, ça restait, on va dire, ça restait un succès d'estime. Donc, c'est vrai que je dirais pas
Ouais.
qu'il a lancé ma carrière, mais en tout cas, il l'a pas enterré, d'office. Donc, c'était déjà pas mal.
Et t'as quand même pas mal d'années d'écriture maintenant derrière toi. Et je me disais, est-ce que t'as vu une évolution du milieu littéraire depuis le temps? Alors j'ai plutôt bien sûr SFFF, hein,
Oui,
je
oui.
parle, mais que ce soit, je sais pas, lors des salons, peut-être des réactions des lecteurs ou lectrices.
Bah avec le temps, en fait, au fil des ans, ce qui me ramène à mon grand âge, au fil des ans, c'est vrai qu'on se rend compte, oui, effectivement, que, alors notamment sur les salons, parfois c'est amusant parce que d'une année à l'autre, on peut croiser les mêmes personnes, hein, donc voilà, il y a quand même des liens qui se créent. Mais c'est vrai qu'on voit aussi les grandes tendances, et en fait, il y a un côté éternel recommencement, parce que par exemple, alors c'était même avant que je commence à être publié en tant qu'auteur, mais je me rappelle la grande vague, par exemple, de la Beatlit.
Ah oui, ouais.
Voilà, notamment promu par Bragelonne à l'époque de Milady, quand il faisait vraiment quasiment que ça, quoi. Et maintenant, depuis, on va dire l'an dernier, bah, c'est vrai que c'est la prime à la romantaisie. Finalement, c'est toujours, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, il y a 10-15 ans, c'était de la romance et du fantastique, on va dire. Là, maintenant, c'est de la romance et un cadre fantasy. Évidemment, là, la romance, elle, est toujours là. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est des modes. Il y a un emballement. Bon, après, entre les deux, il y a eu le young adult, mais le young adult, ça peut prendre tellement de virages différents. C'est pas un
C'est
sous-genre.
très large,
Oui, c'est
ouais.
ça. C'est pas un sous-genre spécifique en soi. C'est plus le public, un public. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a vu l'explosion de ce genre de titres. Je pense que la plupart de mes camarades, bon, c'est très difficile de vivre de l'écriture en imaginaire, mais on a un peu plus de chances d'y arriver, je pense, quand on s'adresse à la jeunesse et au public young adult, que quand on va dire, on s'échine à faire des romans qui s'adressent à un public,
Pour adulte.
voilà, un public plus adulte, parce que c'est d'office un, j'ai l'impression d'être un financier, mais c'est d'office un segment, on va dire, de marché plus restreint que la population, on va dire, de lectrices et lecteurs young adult, qui en plus, en général, bah, quand ils aiment un titre, enfin, quand ils aiment une maison, un titre d'une maison, ils vont acheter 4-5 titres à la fois dans la même maison. Je parle là vraiment, je parle en festival bien sûr. Mais oui, c'est sûr que j'ai pu assister à ça, mais j'ai quand même l'impression que voilà, c'est les mêmes ingrédients qui reviennent quand même par vague, mais avec assaisonnés peut-être de façon légèrement différente, mais globalement c'est quand même ça. Et puis effectivement, je dirais un lectorat qui est quand même, enfin toujours majoritairement, j'ai l'impression en tout cas, mais là c'est vraiment au doigt mouillé et en festival, bah, quand même un peu plus féminin que masculin. En tout cas, pour ce qui est de mon public, ou en tout cas des gens qui sont vraiment les plus passionnés.
Ouais, je dirais pour la SFFF, je suis d'accord. Hein. Moi aussi, je trouve que c'est quand même plus féminin. Quand on va dans les salons, on voit plus de têtes de filles que de garçons. Mais bon, ça ne change rien au plaisir de la lecture.
Ah non, c'est sûr.
Bah, du coup, je vais revenir un petit peu sur tes univers, parce que tu as des univers très différents quand même dans tes livres. Au lieu de passer pour chacun, je voudrais savoir si tu avais en règle générale des inspirations, tu vois, globales pour les mondes que tu créais.
Oui, alors en fait j'ai des inspirations très variées, quel que soit le projet. C'est-à-dire que déjà je suis quelqu'un d'assez visuel au niveau de mon imagination. C'est-à-dire souvent une image peut m'inspirer, alors pas un roman entier, hein, ça serait trop beau, ça serait trop simple. Mais parfois c'est vrai qu'il y a des images qui me frappent et qui tout de suite me donnent une idée. Alors malheureusement, comme je disais, c'est pas non plus systématique. Heureusement, sinon ça serait un peu pénible dans la vie de tous les jours, si dès que je voyais une image, j'avais des idées.
Ouais.
Je m'inspire aussi beaucoup de l'actualité.
Ah, ok.
Bah, quand même un peu, c'est-à-dire que dans mes thématiques, plus que dans les histoires proprement dites, hein, bien sûr, mais c'est vrai que par exemple, si je pense à Sélestopol, en plus ça s'accélère là, on va dire que les questions d'intelligence artificielle, bah, c'est quelque chose que forcément je peux mettre en scène dans cet univers-là, qui est donc un univers un peu steampunk, avec des automates, voilà, toujours la question d'à partir de quel niveau, on va dire, d'autonomie on peut considérer qu'on a une intelligence propre, qu'on est une personne. Donc là, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, et c'est vrai que c'est vraiment des questions très actuelles. Dans mes univers qui sont peut-être, si je pense plus aux romans qui ont été publiés chez Critique et chez Folio pour La Piste des Cendres, donc avec l'Empire du Léopard, bah, un univers qui fait plus penser à l'Amérique du Sud, à l'Amérique centrale, et bah, c'est pareil, c'est des questions plus historiques, on va dire, à la base, mais
Territoire, ouais.
les questions de colonialisme ou même d'exploitation des ressources naturelles. Là aussi, c'est très actuel, hein, mais ça existait déjà un siècle.
Oui, ça ne vieillit pas.
Oui, c'est ça, malheureusement, en général, les notions négatives ont tendance à persister. Et voilà, c'est des choses qui, parfois, là aussi, ça peut être un article d'actualité. J'avais lu une fois un article du Monde sur des orpailleurs clandestins au Brésil. Voilà, ça avait pu m'inspirer une scène dans l'Empire du Léopard. Quel que soit le projet, en fait, c'est souvent un méli-mélo d'influences qui peuvent être très variées. Je mets de côté un peu ce que j'avais fait en jeunesse comme Poussière Fantôme chez Scrinéo, où là, bon, bah, c'était dans un cadre actuel très contemporain, c'était notre monde à notre époque. Et là, bon, mes sources d'inspiration, c'est juste, entre guillemets, que j'ai vécu un peu plus de 3 ans au Québec, et j'avais tout simplement envie de m'amuser et d'utiliser ce cadre, parce que ça avait été de très belles années.
Ouais, c'est chouette.
Je mets aussi à part Emils, donc chez Argile, parce que comme c'est un roman avec une forte composante historique, ben là j'étais un peu, entre guillemets, prisonnier de mes recherches historiques, donc là l'inspiration était un peu encadrée. Comme c'est un personnage, on y reviendra peut-être, mais sur lequel on ne sait quasiment rien, ben c'était facile aussi de. Ça me laissait quand même une large part à l'improvisation, on va dire.
C'est clair. Bah oui, on va passer à Emile. Je voulais juste te poser une autre question avant. C'était une question d'une auditrice
Oui.
qui est un petit peu liée à ton univers, justement. Elle demande donc tes romans entremêlent histoire réelle et monde inventé, ce qui génère forcément des contraintes. Et elle dit d'où te vient ce goût pour l'histoire et ce désir de t'appuyer sur des faits réels pour construire tes récits?
Bah déjà, merci pour la question. Alors, mon goût pour l'histoire, bah, je pense que je suis un historien frustré, tout simplement, parce que j'avais commencé des études d'histoire, mais en fait, je me suis aperçu très vite qu'il n'y avait quand même pas. Bon, parce que je pense quand même que quand on arrive à l'université, on sait déjà que ça va pas se passer comme ça, mais disons que, voilà, le côté historien, il y a toujours
C'était Indiana
c'est
Jones.
ça, la dimension archéologie, voilà, qui n'est malheureusement réservée à de rares élus. Du coup, en général, quand on fait des études d'histoire, on finit souvent prof d'histoire. Et moi, j'avoue, je suis pas du tout, j'ai pas du tout la fibre, enseignement. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement compliqué, justement, de transmettre son savoir, etc., que bah, je voulais pas y aller en traînant les pieds, parce que je pense que j'aurais fait un très mauvais prof. Donc du coup, bah, c'est vrai que c'est des études d'histoire qui n'ont finalement abouti sur rien de concret. Mais j'ai toujours eu un goût pour ça, même plus jeune. Je lisais des encyclopédies. Alors chez moi, chez mes parents, il y avait encore une fois une référence de vieux, mais il y avait la collection Tout
Tout
l'univers.
l'univers, oui.
Voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que je me rappelle même au primaire lire les pages sur je sais pas, la campagne de Russie de Napoléon. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui me passionnait. Et puis en fait, je pense que il y a le côté là où ça rejoint l'imagination, je dirais que c'est le côté un peu rêveur, et donc le côté uchronie, et si Napoléon avait remporté la campagne de Russie, et si l'Empire romain n'était jamais tombé, enfin ce genre de choses, bah, quand on est attiré par l'imaginaire et qu'on a facilement des envies de rêver d'autres destins, l'uchronie c'est quand même quelque chose de parfait pour ça, et je pense qu'effectivement c'est le mélange des deux qui fait que je me suis orienté vers ce genre de récit, et effectivement qui peut avoir des contraintes aussi, parce que bah, quand on pense uchronie, et justement, j'ai envie de faire une uchronie entre guillemets réaliste, alors peut-être pas aussi réaliste qu'un Kim Stanley Robinson dans les années noires, et encore, mais
On
disons
peut
que si
tout
je pense,
faire.
bah pourquoi pas. faut pas non plus toujours s'imaginer
Se
que
mettre des
les auteurs,
limites, hein.
voilà, que les auteurs américains sont forcément meilleurs. Mais oui, plus sérieusement, bah, c'est vrai que dans le cas de Sébastopol, j'essaie de, voilà, si je modifie des éléments historiques réels, j'adopte et que je fais plutôt adopter à l'histoire des virages qu'elle n'a pas pris dans la nôtre, bah, j'essaie de rester réaliste dans la mesure du possible. On peut parler de réalisme quand on a une cité sur la Lune dès les années 1900, bien sûr. Mais autrement, c'est vrai que j'essaie toujours de m'imposer. Voilà, il faut que dans le cadre du récit, en fait, on n'ait pas de remise en question de la crédibilité de ce qu'on lit, parce que si le lecteur ou la lectrice sort de sa lecture, hein, c'est la fameuse suspension d'incrédulité, bah, si on n'y croit
On
plus,
perd, ouais.
voilà, après c'est perdu, quoi. Donc c'est vrai que même dans un cadre comme ça, c'est l'une des contraintes, effectivement, qui sont vite là, mais qui font partie du jeu et qui peuvent aussi d'ailleurs être source de, bah, même de plaisir, parce que c'est aussi un jeu justement d'arriver à déjouer, déminer plutôt les problèmes qui peuvent se créer, puisque forcément quand on modifie un fait historique, bah, ça entraîne, c'est comme des dominos qui tombent, hein, ça fait tout, ça chamboule
Ouais.
tout, donc voilà, il faut essayer de prendre du recul pour avoir une vision la plus large possible. Mais voilà, moi j'aime bien ça aussi.
Ouais. Avant de parler de Sélestopol, on va parler un peu de d'Emils, qui est donc ton dernier roman publié. Donc c'était chez Argile. C'est aussi une de leurs meilleures ventes de 2023. Donc félicitations.
Merci.
Donc c'est une fantaisie historique. Ce que je te propose, c'est de nous pitcher un peu le roman et puis aussi de nous dire pourquoi tu as choisi en fait cette période historique et ce personnage féminin qui est peu connu en fait.
Oui, alors le roman. Alors, bah, effectivement, le roman s'appelle Emils parce que c'est le prénom du personnage principal, tout simplement. Donc, au moins, lectrice et lecteur sont prévenus. On va rester dans ses pas. On suit donc cette jeune princesse qui vient d'Ibérie, donc d'Espagne. Du sud de l'Espagne, qui est donné en épousailles, on va dire, à Hannibal Barca, donc Hannibal, général carthaginois, hein, donc
Ouais, celui qui est connu.
voilà, les éléphants, la traversée des Alpes, la Seconde Guerre punique, avec Rome qui tremble, voilà, mais ne rompt pas. J'ai voulu aborder une vision décalée, et du coup, dans le roman, enfin décalée, parce que justement, c'est pas un récit guerrier où on va suivre Hannibal dans ses exploits, etc., sur le champ de bataille. Et là, le roman suit Emils, bah, du coup, après une intro où on la voit jeune fille, on la suit au moment de son mariage sur quelques années, voilà, parce que la Seconde Guerre punique a duré quand même plus de 15 ans, donc le roman ne va pas aussi loin. Mais en tout cas, on suit ses premières années à Carthage, puisque Hannibal a choisi de la renvoyer à Carthage pour sa sécurité. Et donc, on va la découvrir évoluer au sein de sa belle famille, séparée des siens, forcément. Et essayer de prendre ses marques, trouver sa place dans une cité qui, même si la guerre se déroule à des centaines et des centaines de kilomètres, eh ben, subit les conséquences et l'influence de cette guerre malgré la distance. Après, pourquoi j'ai choisi ce personnage? Bah, tout simplement parce que justement, c'est un personnage qu'on peut considérer comme oublié.
Oui, carrément.
Je sais, je précise. Enfin, j'espère que personne n'ira imaginer que c'est une démarche cynique dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup quand même de. Depuis Circé, de récits, alors souvent même, effectivement c'est plus mythologique, mais pas forcément, enfin pas toujours en tout cas, mais de récits qui essaient justement de mettre en valeur ces figures féminines oubliées, ou de prendre un grand mythe, mais de le retourner, ou justement au lieu de suivre le héros masculin, ben, on suit un personnage féminin. Donc on pourrait croire que j'ai essayé de suivre la mode, alors que pas du tout, je pense que ça. Enfin, pas du tout. On va dire que ça, c'était pas un point négatif, mais en tout cas, c'était pas l'une de
Oui,
mes
t'as pas
motivations.
voulu ouais, faire de l'argent en disant oh, ça a marché parce que c'est la mode.
Oui, c'est ça. Et puis justement, si j'avais voulu faire ça sur un modèle, on va dire, plus, enfin, pour surfer vraiment dessus, j'aurais pu essayer de trouver une figure, on va dire, appartenant à un univers et plus connu, parce que bon, là, forcément, Emils, je sais très bien que c'est aussi, c'est malheureusement, c'est. Enfin, je suis content que le livre se soit plutôt bien défendu en librairie, et j'espère que Argy est content aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même se tirer une balle dans le pied de donner comme titre au roman un nom qui ne dit absolument rien à 99% du lectorat imaginaire ou
Oui.
historique, hein, parce que forcément, quand on passe en librairie, qu'on voit juste ce nom, alors certes, sur la couverture, on peut voir des éléphants. Mais de là à penser à tout de suite à Carthage si on retourne pas le livre pour lire la quatrième,
Ah non, ouais, on n'y pense pas. Hein.
ben c'est ça. Et puis même Carthage, bah ben voilà, c'est pas un récit tiré de la mythologie grecque, c'est pas un récit tiré du cycle arthurien. Voilà, c'est quelque chose de beau, c'est une civilisation beaucoup moins connue, même sur un plan historique. Alors moi, c'est aussi ce qui m'attirait, parce que j'ai toujours été fasciné, justement, pour répondre à la deuxième partie de la question, par Carthage. Et justement, toujours pareil, on revient un peu à l'Uchronie, le côté « et si Hannibal avait gagné, que serait devenue l'Europe ?» Alors c'est pas du tout ce qui est abordé dans le roman, hein, mais je veux dire, en tout cas, ça faisait partie de ma fascination pour cette civilisation. Et puis, bah, comme la ville a été rasée après la défaite lors de la Troisième Guerre Punique, spoiler, mais du coup, bah, c'est sûr que même les historiens, j'ai fait beaucoup de recherches pour le roman, en essayant de les rendre les plus digestes possibles après, pour le lecteur, une fois utilisé dans le roman. J'ai utilisé qu'une toute petite partie de ce que j'ai lu. Heureusement, sinon le roman ferait 3000 pages. Même pour les historiens, souvent, j'ai vu revenir cette remarque comme quoi, bah, il y avait encore plein de choses qu'on ne savait pas.
Mais justement, si je peux me permettre, donc comment tu as effectué des recherches bon, sur Carthage, en règle générale, je me dis c'est plus facile, mais sur Émile, parce que bah c'est pas, enfin justement, est-ce que tu as pu trouver facilement des choses sur elle?
Ah non, très peu de choses, et du coup, c'était pas facile. En fait, pour tout dire, elle est mentionnée que par un seul... Alors, plusieurs historiens romains mentionnent le fait que Hannibal avait épousé une princesse ibère. Par contre, souvent, son prénom n'est même pas cité, et en général, ça fait une ligne, hein. C'est juste pour dire qu'il a épousé, voilà, pour l'alliance, en fait, que ça lui a permis d'avoir avec le père d'Imils, qui était donc un roi local. Mais en gros, elle est jamais citée autrement que ça, sauf par un historien. Alors lui, le problème, c'est que souvent, il était, a priori, il était connu pour embellir ses récits, ce qui n'est pas vraiment ce que devrait faire un historien,
Non.
et donc à inventer des choses. Notamment, lui mentionne un fils qu'ils auraient eu, donc Émile, c'est Hannibal, mais je veux dire, ça c'est corroboré par absolument rien d'historique, quoi. C'est vraiment, c'est là que ça fait un peu feuilleton. Et donc, il y avait une scène d'adieu, notamment sur la plage. Alors, pour le coup, j'ai fait un clin d'œil, parce qu'il y a effectivement une scène d'adieu sur la plage dans le roman, mais quand même moins lyrique, voilà. Et il n'y a pas d'enfant, surtout. Mais cet historien, on peut pas être sûr de ce qu'il avançait. Et du coup, en fait, il y a effectivement très très peu de choses sur elle. Et notamment, j'en profite, petit coup de gueule, entre guillemets, mais la page, il y a quelques mois maintenant, je crois, la page Wikipédia française a été éditée du personnage,
Ouais.
et en fait raconte à peu près bah, n'importe quoi, puisque ce qui est raconté de son destin n'est corroboré par rien, si ce n'est une pièce de théâtre espagnole assez récente. J'ai l'impression que la personne qui a édité la page s'est basée sur cette pièce pour revenir sur sa vie, puisque dans cette version, il est dit qu'elle meurt lors d'une épidémie, enfin, des trucs qui sont, enfin, justement, qui sont invérifiables. Donc voilà, la page Wikipédia française... conseille de ne pas vous y fier.
Mais du coup, dans quelle mesure toi, tu as décidé, ok, je peux aller jusque-là dans son histoire ou pas aller jusque-là?
Et bah, du coup, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé à fond le curseur du cadre historique, dans la mesure des connaissances actuelles, hein, bien sûr. Hein, peut-être que dans 5 ans, il y aura des fouilles qui vont prouver que, enfin voilà. Mais dans la mesure des connaissances actuelles sur le plan de Carthage et des civilisations puniques, je me suis vraiment, voilà, je pense que le roman est vraiment très très carré, très très sérieux sur tout ce qui est la vie à l'époque, la vie quotidienne notamment, les coutumes, etc. Après, pour ce qui est du destin et de la vie d'Emils elle-même, là on est effectivement dans la fiction historique, dans le sens où, bah, comme on a très peu d'infos, bah, en fait, en grande partie, je lui invente une vie dans le cadre du roman, quoi. Donc c'est ma vision de sa vie. C'est pas comme un roman, mettons, sur Alexandre le Grand, où bah, sa vie est tellement documenté que, à moins justement de partir dans l'Uchronie, on est obligé de vraiment respecter l'histoire. Là, je pouvais entre guillemets faire ce que je voulais. Donc, je présente plusieurs chapitres de sa vie, mais c'est sa vie fictive en dehors du mariage avec Hannibal, qui est le seul élément
Vérifier quoi.
voilà, à peu près sûr. Mais après, même son caractère, c'est un caractère que je lui ai inventé tel que je voulais me la représenter dans le cadre du roman. Mais c'est pour ça que c'est de la fiction historique, oui.
D'accord, et justement, tu as parlé de tout ce que tu t'étais renseigné, et pour le livre, j'ai vu que tu as fait plusieurs vidéos sur Instagram pour expliquer le contexte historique, mais pas que, tu as parlé de la magie, par exemple à Carthage, des choses comme ça, et je me disais, est-ce que tu peux nous dire quel était ce but avec ces vidéos? Est-ce que c'était informer les gens, faire découvrir l'univers, ou bien je me suis dit aussi, est-ce que ça fait partie désormais un peu des obligations des auteurs, tu vois, d'être présent sur les réseaux sociaux et de tenter de faire un peu plus de contenu autour des livres, quoi.
Le but premier, c'était très clair. Je voulais essayer de ne pas faire peur aux gens qui me connaissent peut-être pour ce que j'ai fait plus en fantasy, ou qui de façon générale entendraient parler du livre, mais auraient pu être rebutés par le côté historique justement. Donc en fait, les vidéos, elles étaient vraiment là, effectivement, pour présenter l'univers. Mais avant tout, en fait, j'avais vraiment envie d'éviter de faire peur aux gens. Et l'idée, c'était pas de leur mâcher le travail, mais de leur montrer qu'en fait, si vous aimez la fantasy, même si la dimension fantasy du récit est quand même légère, ben vous pouvez lire ce livre. Parce que par exemple, tu citais la magie, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur la magie dans la civilisation punique. Et en fait, ça fait partie des choses que j'ai apprises en cours de route, parce qu'effectivement, c'était une civilisation très très superstitieuse. Et on pouvait effectivement acheter des amulettes. Ça sera plus, pour le coup, ça serait un peu de hors contexte. Des amulettes, on pouvait acheter des malédictions à jeter sur son voisin ou sur un rival, etc. Et les gens craignaient vraiment les dieux, voilà. Donc il y avait quand même cette dimension. Pour quelqu'un qui ne lit pas de romans historiques, mais qui a l'habitude de lire de la fantasy, bah finalement, un univers où les gens craignent les dieux, où se jettent des malédictions, bah ça reste très fantasy, je trouve. Mais parfois, voilà, il y a une partie du lectorat, mais j'ai vécu un peu le même problème avec le format nouvelle, hein, par exemple, le format recueil de nouvelles pour les deux Célestopol. C'est parfois, je pense que les gens se mettent des barrières. Je pense que le lectorat en imaginaire est quand même relativement curieux, heureusement pour nous. Mais c'est vrai que parfois, je pense que les gens ont ont quand même des réticences là-dessus. Alors que je disais, que ce soit des questions de format, comme je le disais avec les nouvelles, alors que les novellas, par contre, là, ça
Ça
cartonne.
marche bien, ouais.
Ou, bah, voilà, côté roman historique, parce que parfois, on a peur que ce soit un peu une leçon d'histoire, alors que pas du tout, etc., etc. Donc, ces vidéos-là ont été créées avant tout pour ça. Et puis, quelque part, vous rentabilisez un peu toutes mes recherches.
Ouais.
Ça coûte quand même très cher. Parce que j'avoue, je préférais souvent acheter les bouquins que les emprunter, parce que je savais que je dépasserais les dates limites de rendu, etc. Donc, autant les acheter. Mais je me suis dit, bon, bah, j'ai appris tellement de choses, autant essayer voilà, même si c'est pas dans le roman, je peux en faire quelque chose pour la promo du roman. Parce qu'effectivement, bah, c'est vrai que être totalement absent des réseaux, compter sur uniquement sa plume, bah, ça peut marcher peut-être si l'éditeur, lui, met un max de com sur toi, ou si on est déjà installé. J'imagine que voilà, quand on est, je sais pas, Jean-Philippe Jaworski, on a peut-être plus besoin de. Ça fait longtemps qu'on n'a plus besoin de com,
Ouais.
qu'on n'est pas obligé de. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas du tout mon statut. Donc, bah, c'est vrai que c'est pas du tout une corvée. Hein, en général, quand je fais une. Alors, ça prend du temps. Parfois, c'est sûr que je me dis, ça prend même beaucoup de temps, éventuellement même du temps d'écriture. Mais après, c'est pas une corvée. Et malheureusement, ou pas, bah, je pense qu'on est quand même un peu obligé de passer par là. Parce qu'effectivement, il faut aussi se montrer. Parce que bah, si on se montre pas, d'autres se montreront. Et bah, c'est toujours pareil. Bah, c'est un marché pas si grand que ça, l'imaginaire, mais par contre c'est très très concurrentiel. Il y a quand même une dimension, effectivement, où il faut être là pour montrer qu'on est là, tout simplement, pas pour prendre la place de quelqu'un d'autre, mais juste occuper la sienne.
Ouais, montrer que le roman existe.
Ben, c'est ça.
Je pense que c'est la transition parfaite pour avoir l'extrait d'Emils que tu avais préparé, maintenant qu'on en a bien
Oui,
parlé.
j'ai pris le livre à côté de moi.
Est-ce que tu peux préciser, oui, quelle partie tu vas lire?
Alors c'est le tout début du chapitre 5. J'avais déjà lu la première. J'avais fait une petite vidéo il y a des mois et des mois avant la sortie où je lisais les deux trois premières pages, mais là je vais lire une page seulement et je me suis dit autant le chapitre 5 parce que c'est l'arrivée d'Emils à Carthage, donc ça peut être intéressant, je pense, j'espère ne pas trop bafouiller, hein, je m'excuse par avance. Je précise juste, je parle d'hippo, mais c'est pas des hippopotames, hein, c'est des navires. Je
Oui, tu
précise à
fais bien de
l'avance.
le préciser.
Parce qu'on pourrait croire qu'il y a des hippopotames, mais non. Voilà, donc bah, je me lance. Hein. Chapitre 5. Au point du jour, Carthage surgit des eaux, tel un navire à l'ancre. Au contraire de Quartadache, qui redoutait de défier la mer, son illustre aîné épousait les terres qu'il avait vues naître, pointe de flèche au bout d'une langue de terre. Des citadelles et des villages fortifiés s'élevaient, eux, sur les rivages du cap tout proche. Leur navire avait ainsi doublé des falaises vermeilles, couronnées de tours à feu, avant de longer de hautes dunes plantées d'argousiers, puis d'approcher le premier promontoire protégeant le port. Au-delà des immenses murailles de la cité qui s'étiraient à perte de vue, Emile fut frappé par la vision de ces 12 collines disposées en arc de cercle, qui semblaient vouloir protéger les habitations, dont certaines, à sa grande surprise, s'élevaient sur plusieurs étages. La ville entière luisait sous les rayons rasants du soleil, comme taillée dans un unique et gigantesque bloc de marbre à la blancheur immaculée. La princesse sourit, tandis que son regard s'égarait dans le dédale des rues. Par leur démesure, les impressionnantes panthères mouillant dans la baie possédaient de quoi inspirer la crainte aux citoyens de Carthage eux-mêmes. Mais les bâtiments de guerre se révélaient étonnamment pataux lorsqu'ils devaient se frayer un véritable chemin d'écume entre les modestes Golos et les Hippos aux proues ornées d'une tête de cheval. Un moment plus tôt, la mer, terrible, lui avait paru une houle sifflante, et voilà qu'elle n'était déjà plus que doux reflet à l'ombre des fortifications. Emils laissa ses poumons se remplir une dernière fois de la brise salée qui l'accompagnait depuis des jours, de ce vent de liberté. La princesse baissa les yeux sur sa longue robe droite, barrée d'une pèlerine à trois bandes. Avait-elle bien dissimulé son pendentif d'ambre sous le tissu d'un rouge vif? Sa ceinture richement parée était-elle à la bonne hauteur pour souligner sa taille? À qui s'adresser pour le savoir? Désormais, il n'y avait plus personne pour lui prêter conseil. Déjà, Carthage incarnait l'ultime étape de son existence.
Belle description, hein?
Ah bah merci, j'espère que ça sera suffisamment évocateur pour éventuellement convaincre quelques lectrices et lecteurs de plus.
J'espère aussi. Je te propose de partir sur un livre que tu as déjà mentionné du coup un peu plus tôt. C'est l'univers de Célestopol. Donc tu as déjà dit que c'était une série de nouvelles. Donc je vais rajouter que c'est une uchronie parce que donc c'est considéré, on est dans le passé, qu'il y a une cité sur la Lune. Enfin dans le passé par rapport à aujourd'hui, hein, mais tu pourras mieux expliquer que moi. Mais je voulais juste préciser que je trouve que c'était un risque d'un point de vue éditorial de partir sur des nouvelles. Et pourtant, bah, le succès c'est au rendez-vous parce qu'il y a eu 2 tomes, il y a eu quand même une édition en poche. Comment est-ce que tu expliques ça? Justement.
Je pense que tout est à relativiser, hein. Je ne veux pas avoir l'air trop pessimiste, mais effectivement, les deux sont sortis en poche, c'est super. Mais c'est un peu comme les ventes d'Emils, en fait, ça a plutôt bien marché chez Argile l'an dernier. Mais après, tout est question d'échelle, donc je sais pas. Je pense que ça reste là aussi des succès d'estime, ce qui est déjà bien, hein. J'ai pu en faire deux, j'espère trois. Ça reste super parce qu'effectivement, des recueils de nouvelles, je le disais un peu plus tôt, c'est pas forcément très vendeur. Et encore, j'insiste beaucoup, les éditeurs aussi, sur le côté fil rouge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un fix-up, comme on dit très précisément. C'est pas un recueil de nouvelles au sens, comme certains auteurs le font, où toutes les nouvelles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Là, en fait, on est vraiment, enfin, toutes les nouvelles ont quand même des liens entre elles. Bah, déjà, il y a une unité de lieu, donc c'est Sélestopol, donc cette cité sur la Lune, construite à la base par l'Empire russe fin 19e et puis ben, dirigée par le duc Nikolaï qui va dire les velléités d'indépendance. Donc il y a cette unité de lieu, de temps pour 1922 puisque dans ce cas-là, ben, toutes les nouvelles se déroulent la même année en 1922, comme son titre l'indique. Il y a des personnages communs aux nouvelles, qui sont parfois les héros d'une nouvelle, qui peuvent revenir en second rôle dans une autre. Donc voilà. Même si c'est pas un roman, c'est vrai qu'on a toujours essayé de garder cette dimension de fil rouge pour éviter de perdre trop les lecteurs, même si j'ai encore des gens, quand ils me connaissent pas du tout, qui voient le livre en festival, ils peuvent être très attirés, mettons, par la couverture. Voilà. Je vois encore que ça bloque pour le côté nouvelle. Donc ça, je pense que ça sera toujours moins facile à vendre qu'un roman,
Oui.
mais c'est un univers que j'ai créé comme ça, on va dire. Au départ, j'avais eu une nouvelle sélectionnée pour une anthologie, une nouvelle qui se retrouve dans le premier recueil, du coup. Et à partir de cette nouvelle, bah, c'est vrai que j'ai eu d'autres idées de récits, mais c'était à chaque fois dans ce format-là que les idées me venaient. Et j'ai eu la chance, justement, que le premier Sélestopol en grand format soit aussi publié par les éditions de l'Instant, parce que justement, Patrick Dechaîne, l'éditeur, avait pas peur de ce genre de projet un peu fou. Bah derrière, j'ai eu la chance, pareil, qu'il soit un petit peu remarqué malgré les difficultés de la maison, après d'être repris en poche aussi, et puis de voir ce deuxième volume arriver chez l'édition de l'Homme sans nom. Donc je pense qu'il y a eu un concours de circonstances aussi assez chouette, comme quoi les coups du sort peuvent aussi être positifs, parce que c'était une époque où, quand le premier a été repris en poche, donc aux éditions Libretto, c'était une période où Libretto justement s'ouvrait à l'imaginaire. Parce que Libretto, c'est une collection assez prestigieuse, mais
Ouais, ils sont pas connus pour
non, ils
l'imaginaire.
sont pas connus pour l'imaginaire. Puis on va dire que 80% ou 80, oui, 80% des auteurs publiés sont en général morts. Donc c'est non, mais c'est vrai. Et voilà. Et à l'époque, ils avaient notamment publié aussi Feuillets de cuivre de Fabien Clavel. Enfin voilà, ils s'ouvraient un peu à ce genre de
À
littérature.
des auteurs
C'est
vivants.
ça, notamment. Et j'ai eu la chance de passer, voilà, que Stockhol se faufile à ce moment-là dans la collection. Et après, je sais pas, peut-être que Dimitri de HSN, de L'Homme sans nom, aurait quand même accepté le projet, même si le premier n'avait pas été publié en poche. Mais je pense que ça a forcément aidé aussi de trouver un nouveau public dans ce format-là. Je touche du bois parce qu'effectivement, enfin, je vais pas le faire sinon ça va faire du bruit. Mais effectivement, ça reste, on va dire, des projets, j'espère pas de niche, parce que je pense que l'univers a un potentiel pour plaire à un public très large. Mais là encore, on va dire que je choisis pas toujours la voie la plus facile, pour ma carrière.
Oui, j'ai envie de dire que c'est un peu ta marque de signature d'être là où on t'attend pas en fait. La nouvelle, Emils, c'est osé à chaque fois.
Oui, mais enfin, je sais pas. Disons qu'en fait, moi, enfin, j'ai aucun problème avec les gens qui poursuivent pendant cinq, six, enfin, si le succès est au rendez-vous, bien sûr, cinq ou six ou sept romans. Enfin, avec les. Et d'ailleurs, justement, j'ai deux recueils dans l'univers de Céleste Topol, j'ai bientôt trois romans dans l'univers du nouveau Coronado, donc L'Empire et la Piste. Voilà, donc je m'interdis pas de revenir explorer le même, enfin, un univers que j'ai déjà, auquel j'ai déjà donné une existence. Mais c'est vrai que spontanément, j'aime bien ne pas enchaîner deux fois sur le même et voilà et prendre des détours, etc. Donc c'est pas forcément
D'accord.
la meilleure façon. Enfin, si j'avais un plan de carrière très strict, ça serait peut-être pas la meilleure démarche. Mais bon, quand on écrit, je pense qu'on écrit aussi, même si on écrit évidemment pour être lu et pour le public, on écrit quand même aussi un peu pour soi et pour les choses qui nous font vibrer. Donc c'est vrai que voilà, moi, Sébastopol, c'est un univers qui me tient très très à cœur. Et tant pis si pour l'instant j'ai pas d'idée de roman et que ça s'exprime sous forme de nouvelle. J'ai quand même un petit public derrière moi qui a l'air de pas être rebuté par ça, donc voilà, tant mieux.
Oui, et puis tu parlais de la façon dont Sélestopol pouvait atteindre un nouveau public, avec notamment le poche et tout ça. En plus de ça, tu pars aussi sur un jeu de rôle pour Sélestopol. Donc je veux dire, là, tu vas encore toucher un autre public. Donc c'est pour ça que je dis, mais tu vas là où on t'attend pas, parce que comment t'as eu l'idée du jeu de rôle?
On me l'a proposé. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis pas du tout le joueur de jeu. Enfin,
Génial!
pour être clair, moi, le jeu de rôle, je suis pas joueur. Par contre, c'est vrai que je suis fasciné depuis longtemps par ça. Enfin, quand j'étais au lycée, j'achetais Casus Belli, la revue spécialisée. Mais je jouais pas. Enfin, j'avais pas de table. Voilà. J'avais deux, trois amis qui auraient peut-être été potentiellement intéressés, mais on s'est jamais vraiment lancé. Mais ça me fascinait. Je veux dire, les scénarios, ce côté, pas simplement être spectateur, mais du coup être acteur de ces histoires, explorer des mondes qu'on a déjà connus quand c'est des jeux de rôle basés sur des univers qu'on apprécie, comme je sais pas la Terre du Milieu, l'Appel de Cthulhu, enfin il y a plein d'univers à explorer. Star Wars à l'époque, je crois qu'il y a toujours, y a forcément toujours des jeux de rôle de
Ouais,
Star
il y a
Wars,
toujours.
j'imagine, voilà. Mais c'est vrai que j'achetais ça alors que je jouais pas, mais juste parce que j'étais déjà fasciné par le concept même de jeu de rôle. Et c'est vrai que j'ai même acheté des jeux de rôle, enfin des livres de base de plusieurs jeux, mais effectivement j'ai dû faire moins de 10 soirées dans ma vie, quoi. Donc je suis vraiment pas un gros joueur. J'irais même jusqu'à dire j'aime pas trop en général les univers où. Et pourtant j'ai traduit Erikson, le livre des martyrs est basé à la base sur une campagne de jeux de rôle
Ah.
entre lui et son camarade Esselmont. Mais voilà, j'irais même jusqu'à dire les romans où on a l'impression que l'auteur a donné vie à sa partie de jeu de rôle. En général, j'y vais à reculons. Mais par contre, le jeu de rôle lui-même, ça m'a toujours titillé. Quand Entremonde, donc l'éditeur, quand on m'a fait part de leur intérêt pour adapter Célestopol en jeu de rôle, moi j'ai tout de suite été tenté parce que justement c'était quelque chose qui me fascinait et puis que de base je trouvais aussi que ça va peut-être être contradictoire avec ce que je disais juste avant, mais en tout cas, je trouvais que Sébastopol, de tous mes univers, c'est sûrement peut-être celui qui prête le plus au jeu de rôle.
Ouais, je suis d'accord, à cause de la multitude de personnages, tu vois. Ça veut dire que tu peux
Oui.
incarner plein de métiers différents, de profils différents.
Oui, c'est ça. En fait, le côté kaléidoscope, on va dire, de la cité, c'est ce que je dis souvent pour la décrire, avec la dimension recueil de nouvelles, mais ça peut aussi justement s'adapter au jeu de rôle. Et moi, j'ai tout de suite été séduit, même si justement, moi, je suis pas du tout de la partie. Donc, par exemple, tout ce qui est système de jeu, j'ai laissé ça à des gens qui savent très bien faire, notamment mon co-auteur Julien, parce que, voilà, le peu de parties que j'ai fait, c'est pas avec ça que je vais avoir même ne serait-ce que des idées. Alors oui, après, évidemment, pour être fidèle, on va dire, à l'univers, On savait tout de suite que c'est Stockwall, ce serait pas un jeu de rôle, on va dire, bourrin, qui mettrait l'accent sur les combats, etc.
Ouais.
Ça restera quand même un jeu d'atmosphère, avec un système assez léger. Et voilà, donc cette partie-là, je l'ai laissée aux gens dont c'est la spécialité. Je suis co-auteur quand même du jeu, donc c'est un statut un peu à part, parce que bah, c'est pas toujours le cas. Donc moi, je suis très content d'être impliqué, de très près, même si ça fait encore plus de boulot. Et que quelque part, bah, du coup, je donne mon avis sur beaucoup de choses. Alors, je facilite pas forcément l'avis de mes camarades.
Du créateur, ouais.
Eh bah oui, c'est ça le problème, c'est que forcément, c'est comme je l'ai dit, c'est peut-être, je pense que de tous mes univers, c'est peut-être même celui qui me tient le plus à cœur, dans lequel j'ai mis le plus de moi. Donc, forcément, je suis, enfin, voilà. Et comme en plus, j'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai un côté très visuel, bah, notamment, voilà, tout ce qui est illustration, je sais que je suis très pénible. Alors, je m'excuse encore. Mais voilà, c'est vrai que
Ah,
comme ça
elle
ne...
est belle. T'as
Ah, pour la
partagé là, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est
la
beau là.
couverture, ouais, elle est magnifique. Bastien Gèze, donc l'artiste, a fait un boulot extraordinaire. Et justement, à une époque où ben, on en parlait tout à l'heure des intelligences artificielles, voilà, ça se propage même justement à l'illustration. Ben, là, on est bien content de faire travailler de véritables artistes. Et voilà, et ben, d'ailleurs, la couverture sera dévoilée dans toute sa splendeur, en grand format, en HD lundi, enfin lundi du coup
Ah.
19. Voilà, donc d'ici là, je pense que ouais. Pour l'instant, la bannière est très jolie, mais on peut pas vraiment admirer tous les détails et l'étendue
C'est vrai.
du travail. Mais voilà, moi, c'est vraiment un projet qui me tient très à cœur. Je suis un peu là pour, on va dire, en tant que gardien du temple. Donc, je vérifie que tout colle avec justement ce qui a déjà été dit dans les nouvelles, qu'il n'y ait pas
Ouais.
de contradictions. Comme je disais, que l'atmosphère soit semblable à celle des livres, parce que ceux qui ont, bah, évidemment que le but, c'est toucher aussi un nouveau public, mais bah, si vous avez aimé les romans, et à la limite, même si vous n'êtes pas joueuse ou joueur, il y aura aussi un côté quand même encyclopédie de la ville avec bah, forcément beaucoup plus d'infos que ce qu'on peut lâcher, entre guillemets, dans une nouvelle. C'est comme avec les recherches historiques, quand je parlais d'E-mails, il faut pas non plus noyer les gens sous les détails. Bah là, on peut mettre autant de détails qu'on veut, hein, forcément. On en apprendra plus sur l'histoire aussi, sur la dimension uchronique, sur ce qui se passe sur la Terre en parallèle. Donc non, c'est vraiment chouette et bah, je suis très content et j'espère que le financement participatif sera un succès parce que, bah, alors je sais, oui, il y a beaucoup de financement participatif, c'est sûr, mais j'ai envie de dire que, bon voilà, encore une fois, c'est pas un univers inspiré de Lovecraft ou... Je pense qu'il y a quand même un peu plus d'originalité que certains projets.
Est-ce que tu peux nous dire du coup la date du financement participatif, si tu la connais déjà?
Oui, alors ça débutera le 14 mars, jusqu'au 9 avril, si je dis pas de bêtises.
Ok.
Je sais pas encore le détail, enfin, j'ai une vague idée du détail des paliers, etc., mais bon, ça, voilà.
Ah, faut garder la surprise.
Bah oui, c'est à l'éditeur quand même de le dévoiler. Je pense qu'il y aura des trucs très chouettes, et allez, je pense que ça, je peux le dire, mais il y aura aussi une nouvelle inédite, dans le livre.
Ah, trop bien. Trop
Voilà.
bien.
Il y a quand même une vraie dimension littéraire dans ce jeu, quoi.
Ça va attirer certaines personnes, ouais, ça c'est
Bah,
clair.
j'espère.
Ouais, donc on commence déjà à s'approcher, le temps passe vite. Du coup, je voulais quand même qu'on parle, on n'aura pas le temps de parler de tous tes livres, hein, parce que comme
Ah
tu
oui,
disais, tu
non,
en as
bah...
déjà écrit pas mal. Mais je voudrais quand même te laisser un petit peu de place pour parler de l'association Albakine. Si tu voulais dire quelque chose en particulier sur ça. Sinon, moi je sais que j'aurais bien aimé que tu parles un petit peu du prix Albakine, parce qu'il y a quand même des chouettes auteurs qui ont fait partie du prix. Donc voilà, je te laisse la parole un petit peu pour parler de l'association.
Oui, bah alors du coup forcément, alors l'association est née du site hein, qui lui a plus de 20 ans maintenant, donc ça nous ramène vraiment aux jeunes heures de la démocratisation d'Internet. Quand je me retourne, je me dis quand même qu'il s'en est passé du temps et des choses
Chose.
depuis. Ouais, non, mais, ça donne toujours un coup de vieux, mais bon, c'est une aventure au long cours. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, bah, je crois que c'était en 2010, on a voulu prolonger ça avec une association justement pour la promotion de cette littérature, encore une fois comme je disais, vraiment très centrée sur la fantasy. Et puis bah vu qu'on chroniquait déjà beaucoup de livres, on s'était dit aussi que bah pourquoi pas créer un prix, puisque à l'époque, bah, à part le prix Imaginal, c'est vrai qu'il y avait peu de prix vraiment dédiés uniquement à la fantasy. En général, c'est toujours mêlé SF, etc. Si je prends le Grand Prix de l'Imaginaire par exemple, voilà, c'était un peu tout mélangé. Je serais content qu'on ait récompensé des autrices et des auteurs comme Estelle Faye, que j'ai déjà cité tout à l'heure, comme Thierry Di Rollo, qui est un auteur que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, n'a pas la visibilité qu'il mériterait pour le coup, mais aussi plein d'autres, enfin, et un prix jeunesse aussi. Et aussi, voilà, toujours, on fait bien attention de toujours citer les traductrices et traducteurs, parce que sans eux, il n'y aurait pas les livres ne seraient pas disponibles, hein, forcément. C'est une dimension qui me tenait particulièrement à cœur, vu mon métier de base. Et c'est vrai que parfois, bon, on se dit quand même vraiment, ça fait, là aussi, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, du temps que je pourrais consacrer, pareil, peut-être à l'écriture ou à d'autres projets, etc., etc. Mais bon, bah, la dernière fois que j'étais en salon, c'était là début février. Parmi les gens qui sont venus me prendre un livre, ben j'ai eu quelqu'un qui m'a remercié pour Elbakine. C'est vrai que c'est assez régulier, même encore aujourd'hui, qu'on m'en parle et qu'on me dise ah merci pour ce que vous avez fait. J'ai trouvé beaucoup de conseils de lecture tout simplement.
Ouais.
Et bah, ça fait toujours plaisir à entendre parce qu'au moins on se dit qu'on fait pas ça pour rien et que malgré tout, bah, même si là aussi à la base le site est né d'une envie simplement de parler entre nous de nos lectures, bah, c'est sûr que quand ça rencontre un écho, c'est un peu comme un auteur avec ses lecteurs. Bah, ça fait plaisir à tout le monde de savoir qu'on est apprécié, quoi, évidemment. Donc au moins ça donne quand même un peu l'envie de continuer, tout simplement, même si forcément avec le temps je m'en suis un peu éloigné. Et j'y passe moins de temps qu'avant, mais ça fait toujours partie de mes activités quotidiennes. Donc.
Oui, d'accord, quotidien. Parce que du coup, pour les auditeurs, est-ce que tu peux leur dire bah, ce qu'ils peuvent y trouver? Parce qu'il y a quand même de tout, il y a des interviews, il y a les podcasts, enfin voilà, peut-être leur faire un petit topo.
Oui, alors bah, tout simplement, vous trouverez effectivement. Alors là, les podcasts, ils sont un peu en stand-by, c'est dommage. Il faudra qu'on se remotive. On va dire le cœur de métier du site, si je puis dire, c'est l'actu fantasy. Donc. Que ce soit des actus éditoriales, on va dire vraiment des trucs très littéraires, genre l'annonce d'une nouvelle collection, ce genre de choses, ou l'actu aussi des adaptations, bien sûr, hein, parce que quand le site s'est lancé, c'était la période du tournage et de la sortie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, donc clairement on a surfé là-dessus, et puis ben de façon générale on suit aussi tout ce qui est adaptation. Donc effectivement aussi des interviews d'autrices, d'auteurs, d'éditeurs. Des concours aussi régulièrement, et puis beaucoup, beaucoup de chroniques, pas assez, encore une fois, il y a tellement de choses à lire. Mais voilà, on va dire que le cœur de métier du site, c'est vraiment l'actualité du genre, et du coup, l'actualité, que ce soit bah, des actus purs ou les chroniques des sorties du moment. Alors parfois en décalé,
Ouais.
parce qu'on n'est pas toujours, voilà, on a parfois, comme je disais, du mal à suivre, mais on essaye quand même de suivre ça du plus près possible. Et un forum qui lui est, on va dire, contrairement au reste du site, à jour techniquement. Donc voilà, avec une communauté qui est encore assez vivace. Alors il y a du renouvellement, hein, heureusement. Mais en tout cas, ça fait plaisir de. Enfin, moi, c'est sûr que le format forum, certains le considèrent dépassé. Moi, j'aime bien malgré tout ce format-là, plutôt que de simplement commenter au pied d'articles ou de billets. J'aime bien les échanges qui peuvent être suivis vraiment au long cours.
Bah aujourd'hui, honnêtement, les nouveaux forums, c'est Discord, hein. Mais en
Oui,
gros,
aussi.
c'est un peu ça. Donc le forum, au final, existe toujours, mais il a, on va dire, un petit peu bougé de plateforme.
Oui, c'est ça, il y a des évolutions naturelles, oui, c'est sûr. Ben, il y a un serveur Discord aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que ben, moi-même, j'y passe pas très souvent, ben, tout simplement parce que j'ai pas le temps, puisque je dis que j'y travaille quotidiennement dessus, c'est vrai, mais malgré tout, bon, voilà, j'ai plein d'autres casquettes, donc. Au bout d'un moment, il faut faire des choix, donc voilà. Mais en tout cas, vous
Ouais.
pouvez trouver plein de trucs dessus, et on espère bah, maintenant atteindre les 25 ans, hein. On y va étape par étape. Il faudra faire un gros truc pour les
Waouh.
25 ans, mais
Carrément.
j'ai pas encore d'idée.
Ça va venir. Mais justement, alors, tu disais que tu as plusieurs casquettes et tout ça. Quelles sont tes prochaines actualités? Que ce soit peu importe, hein, en traduction, en écriture.
Alors en traduction, j'ai rendu il n'y a pas longtemps un roman de James Rollins, donc l'auteur du Feu de la sorcière pour les amateurs de fantasy. Mais c'est un de ses premiers romans et on va dire, c'est du thriller aventure, donc je suis pas sûr que ça intéressera beaucoup le public de l'imaginaire. Mais en tout cas, c'était une traduction sympathique. Enfin, moi, je me suis bien amusé avec. Bah, mes deux gros morceaux, sinon en tant qu'actualité d'auteur, dans l'idéal, c'est sûr que j'espère un jour qu'il y aura. Que mon activité d'auteur. Enfin, j'aime bien traduire, hein, mais c'est sûr que dans mes aspirations les plus folles, j'aimerais ne faire qu'écrire. Et bah, de ce côté-là, bon, bah, il y a le jeu de rôle dont j'ai déjà parlé, hein, donc, avec le financement qui démarrera le mois prochain, avec un kit d'initiation qui lui sera disponible, bah, en même temps que le financement, et le reste du projet à finir d'écrire. Ça va m'occuper quand même, encore quelques mois. Et puis en juin, donc, côté roman, j'aurai un troisième, alors je dis troisième, mais là aussi, encore une fois, je ne veux pas me tirer une balle dans le pied, parce que j'ai dit troisième chronologiquement, mais encore une fois, l'éditeur Comment le considère comme indépendant, mais troisième roman dans le même univers que l'Empire du Léopard et la Piste des Cendres, donc le nouveau Coronado, donc ce contexte d'Amérique centrale, Amérique du Sud, avec le destin d'une colonie, et un peu plus de magie que dans la Piste des Cendres, un peu moins que dans l'Empire, moi je ne sais pas. En tout cas, il y a plus de magie, ouais, que dans la Piste, on revient qui était assez légère dans celui-ci. Et donc, les trois tomes sont indépendants, hein, c'est juste qu'ils partagent le même univers. Donc, a priori, ça s'appellera Souveraine du Coronado. Après, qui est cette mystérieuse souveraine? Là, je laisserai les lectrices et lecteurs le découvrir. Mais ça se passe 20-25 ans après la Piste des Cendres. Donc à nouveau avec pas du tout les mêmes personnages, hein, tout comme c'était pas les mêmes personnages dans La Piste et l'Empire, mais toujours au nouveau Coronado, donc toujours dans la péninsule de la Lune d'Or. Et pour faire court, on se retrouve à un nouveau moment charnière de la vie de la colonie, puisque le Coronado, donc ce royaume qui a pris possession de ce bout de terre, a décidé de vendre la colonie,
Oui.
considérant que voilà que ça ne rapporte pas assez, il n'y a pas assez. Elle vaut pas le prix de ses investissements, et voilà. Et on va suivre deux histoires en parallèle. Ça, je pense que je peux le révéler, hein. Donc, d'un côté, Ferran, qui est un officier de police autochtone, qui est basé à Carthagène, et Carthagène qui est secouée, donc, quelques semaines avant la fameuse vente aux enchères de la colonie, hein, qui doit se dérouler sur place, qui est secouée par une série de meurtres vraiment plutôt atroces, et dont on ne connaît pas les auteurs ou l'auteur, mais dont certains n'hésitent pas à dire que ce serait une fée, puisque c'est un monde qui...
Oui, il y a des filles, ouais.
Voilà, c'est ça, où il y a des fées, donc qui sont à la base. Enfin, comme je le dis, c'est une mauvaise traduction dans la langue parlée par les colons, mais en fait, c'est les divinités qu'elles croient, donc les peuples autochtones de la péninsule. Et donc là, on dit carrément que ce serait une fée qui se serait réveillée, puisque elles sont censées avoir disparu, et qui se vengerait justement des colons en perpétrant ce massacre. Et en parallèle, on va suivre de l'autre côté des montagnes, Hilario, qui est un juge mage. Enfin, ça existait vraiment, les juges mages, Maje, même si on peut l'écrire GE, mais c'est très spécifique, mais je pense qu'on va rester sur le JE pour pas que les gens s'imaginent que c'est un mage au sens
Oui.
magicien. Et donc, c'est un espèce de juge itinérant qui, lui, a un peu renoncé à son rôle justement de juge et a décidé part en mission pour transporter des remèdes, des médicaments dans une ville qui est en proie à une épidémie. Et est-ce que leurs destins vont se croiser ou pas à un moment au fil du roman?
Surprise.
Je laisse planer le mystère. C'est le plus court des trois, donc l'Empire et la Piste étaient
Les pavés.
des petits pavés. Bon. Pas digne d'un Lionel Davous, bien sûr, mais
Hop, au
salut
passage,
Lionel. Non, ben ouais, il le sait qu'il écrit des romans monstrueux, mais en taille. Donc là, c'est un roman un peu plus ramassé que les deux précédents, que je suis en train vraiment de finaliser, qui sortira le 14 juin, si je dis pas de bêtises. On va tenter un peu le même coup que l'an dernier avec Argile et Emile, où Emile s'était sorti le 9 juin.
Un mois porte chance.
Voilà, et puis bah les gens sont pas encore en vacances.
Ils achètent pour les vacances.
C'est ça, c'est ça. Et puis bah je serai présent. Alors à Troll et Légende, il sera pas disponible, hein, c'est beaucoup trop tôt, donc fin mars. Mais le roman devrait être notamment en avant-première aux Imaginales, où je suis invité. Voilà, vous pourrez l'acheter, enfin le récupérer en avance si ça vous tente. Et voilà, j'insiste, je suis désolé, je suis un peu lourd avec ça, mais on peut le lire même si on n'a pas lu les deux premiers. L'univers est en somme représente, enfin je représente l'univers, les clés de celui-ci, etc. Donc n'ayez pas peur, vous êtes accompagné.
Bah, je pense que tu fais bien de le préciser parce que moi personnellement j'ai lu La Piste des Cendres sans savoir que c'était aussi dans l'univers du coup de l'Empire du Léopard et j'ai en fait je me suis rendu compte qu'à la fin ça m'a pas du tout empêché de lire hein, donc c'est clair que pour moi c'est des tomes indépendants dans le même univers, c'est pas tome 1, tome 2, tome 3, ouais, ils marchent seuls.
Mais oui, c'est ça le problème, si je puis dire, c'est que bah, malgré les efforts, que ce soit de l'éditeur ou de moi, c'est là aussi je dis vraiment que parfois je me complique la vie. Mais effectivement, il y a encore trop de lectrices et lecteurs à mon goût, bien sûr, qui, dans leur esprit, la piste est un tome 2, mais non, c'est un deuxième tome dans le même univers, si vous voulez, mais c'est pas un tome 2 au sens de suite. Donc voilà, bah là, ce sera le même principe, c'est un tome 3, dans le sens troisième tome dans le même univers.
Ok, parfait. Bon, ça fait déjà une belle année là, parce qu'après, il y aura la promo et tout.
Oulala, oui.
Alors, bah du coup, je te propose de terminer avec la dernière question habituelle, qui est, est-ce que tu as un dernier coup de cœur en littérature de l'imaginaire à conseiller aux auditeurs?
Et oui, j'en ai un. J'ai beaucoup réfléchi.
D'accord.
Parce qu'en fait, non, mais si, parce que j'ai. En fait, il y a des petits et des grands coups de cœur. Et je me suis dit, est-ce que je privilégie un petit coup de cœur, mais plus récent, peut-être plus collé à l'actu, ou mon dernier vrai grand coup de cœur qui, je trouve, est passé un peu. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il est passé un peu inaperçu, qu'il n'y a pas tant de monde qui en parle. Mais après, c'est peut-être là encore le prisme déformant des réseaux, hein. J'ai pas du tout les chiffres de vente. Et en fait, je voulais parler de. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais peut-être que des gens le découvriront avec ce podcast. Donc, je me suis dit, je vais quand même parler de celui-ci. Bah, c'est tout simplement Sauvage de Joan Michelson, donc au rayon imaginaire, qui est un roman assez. Alors, je sais pas dans quel registre exactement le ranger. Sûrement fantastique, hein, plus que fantasy, fantasy par exemple. Mais où on suit les destins de deux personnages. L'un à New York qui se rend compte, enfin, bon, j'ai envie de dire que sa part d'animalité se réveille, et une renarde dans les Catskills, donc des montagnes.
Une vraie renarde, hein. Pas un personnage anthropomorphe.
Oui. Et voilà, et du coup, bah, c'est un premier roman. Honnêtement, c'est assez bluffant. Ça a été un coup de cœur au sens où le destin de ces deux personnages m'a vraiment beaucoup touché. J'ai trouvé que c'était. Très joliment écrit, sans fioritures. C'est pas un roman qui va forcément faire dans la démonstration au niveau du style, mais qui par contre touche vraiment juste, je trouve. Il y a des formules vraiment qui ont résonné en moi, si je puis dire. En plus, ça se lit quand même assez vite, parce que comme je le disais, alors c'est difficile de savoir combien il a de pages ce bouquin. Parce qu'en fait, le bouquin est présenté, enfin les deux histoires sont présentées. Il faut retourner le bouquin pour lire
C'est
l'autre histoire
intéressant.
quand on commence d'un côté. Donc du coup, alors il y a 174 pages d'un côté et à peu près pareil de l'autre. Donc voilà, c'est pas un roman de
Ouais.
700-800 pages.
C'est standard, 350 en gros, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça, très accessible. Bah, l'objet est assez joli, hein, il y a du gaufrage. Alors il n'y a pas de jaspage, désolé pour les amateurs. Ah non, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Je trouvais que ce n'était très vrai, qui était très aux frontières, comme j'ai du genre, c'est du fantastique, mais c'est presque, enfin parfois, alors faudra pas prendre comparaison des paraisons, mais même si, parfois ça m'a pas fait penser au sens scénario à Twin Peaks, mais c'est ce genre, ça peut être ce genre de fantastique-là.
Ouais, c'est osé la comparaison avec Twin
Oui, non, mais je précise tout de suite pour les amateurs de Twin Peaks, ça n'a absolument rien à voir. Mais dans un certain timbre, on va dire, de voix d'auteur, je trouvais quand même qu'il y avait quelques comparaisons. C'est une de mes meilleures surprises de l'année, parce que je l'attendais pas du tout l'année dernière. Donc c'est un roman qui est sorti, je crois, en octobre. Donc il est pas très vieux non plus, hein. Voilà, j'ai pas pris un roman qui a 3 ans. Mais voilà, si puisqu'on parlait de coup de cœur, je pense que c'est la définition même pour moi d'un coup de cœur, et ça. Je pense que c'est une de mes lectures les plus marquantes de 2023 largement. Donc, j'avais envie de la recommander parce que, comme je le disais, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il n'y ait pas eu de matraquage particulier pour ce titre. Chaque fois que je peux en parler, en fait, je saisis l'occasion. Donc, j'en ai profité.
Bah, de toute façon, je mettrai le lien, hein, comme d'habitude, pour que les
Oui.
gens puissent voir.
Disons que chez le même éditeur, je pense qu'on a beaucoup plus parlé du Trône de Jasmin, par exemple.
Oui.
Qui est sorti aussi à l'automne, que de
Mais il y a
celui-ci,
eu un
quoi.
énorme jaspage pour le trône de Jasmin, c'est pour ça.
Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, bah oui. Mais en tout cas, avec ou sans,
L'histoire qui
c'est toujours quand même
compte,
l'histoire
c'est
qui compte.
clair.
Et là, j'avoue que cette histoire-là, elle a vraiment su faire vibrer quelque chose dans mon âme de lecteur. Et si certaines personnes se laissent tenter, j'espère qu'ils vivront la même expérience de lecture que moi.
Parfait. Bah, merci beaucoup, en tout cas, bah, pour.
Ben, c'est moi.
Merci. Ouais, pour ce coup de cœur et puis le temps que tu as passé. Bah, moi, je te souhaite déjà beaucoup de succès avec Emils, bien sûr,
Merci.
mais avec tous les livres à venir, notamment voilà, bah, ton prochain en juin. Donc, encore une fois, un grand merci. Et je termine, comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles lectures de l'imaginaire. Au revoir! Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. À bientôt!